politiques de transition écologique et énergétique, elles touchent à plein de pans de nos vies quotidiennes. On l'a dit tout à l'heure, la mobilité, le logement, les aspects de consommation, de travail. Ces changements de pratiques qui sont attendus, ils sont pas forcément tous généralisés ni uniformes sur tous les territoires ou auprès de tous les acteurs. On l'a bien vu dans les nuances tout à l'heure, hein, il y a certains qui sont concernés, d'autres pas, d'autres qui font, etc. Et du coup, la question qu'on voulait vous poser, avec vos trois regards différents, c'est à partir de vos travaux respectifs, donc Hélène Joseph, une vision plutôt échiroloise, elle racontera ce qu'ils ont fait, Stéphane Labranche, une vision davantage nationale, voire internationale, je dirais, et Adrien Mallier, qui est spécialisé sur les questions de transition et quartier populaire. Donc, vous voyez, on a trois échelles de vision un peu différentes, et l'idée, c'est qu'on les questionne. Donc, à partir de vos différents travaux, comment pour vous s'exprime la préoccupation environnementale? Quelles sont les différentes façons d'aborder ou d'engager ou de s'engager dans la transition écologique et énergétique? Et existe-t-il, selon vous, une typologie de ménages qui sont les plus éloignés des politiques publiques, vous vous souvenez tout à l'heure, des enjeux de transition? Donc l'idée, c'est que vous puissiez nous répondre à partir de ça. Vous avez des micros ici. Stéphane, vous voulez commencer?
Non, je partage les micros, mais... Ben, cette fois-ci, je commence, mais je ne commence pas sur les autres.
Okay.
Beaucoup de questions en même temps.
Hein. Oui.
Alors, ben, pour revenir à la question, est-ce que les pauvres sont plus éloignés, qui était la dernière question, moi, ce que j'ai trouvé super intéressant dans votre manière de vous positionner, c'est que quand j'ai entendu les réponses, il n'y en avait pas une qui était à côté de la plaque. Vous aviez tous raison, mais ça dépend où on se situe. La crise écologique, objectivement parlant, sciences naturelles, impact, objectivement parlant, concerne tout le monde. Pas de problème avec ça. Franchement, quand 99% des scientifiques de la planète de 50 disciplines différentes sont d'accord pour dire qu'il y a un gros problème, on peut commencer à lever le doute. Non, on est d'accord. Subjectivement, en revanche, c'est autre chose. Et par subjectivement, je veux dire, et c'est ce que je fais, la sociologie du quotidien, de nos pratiques. Comment je fais cuire mes patates et pourquoi? Pourquoi je me déplace d'une telle manière ou d'une autre? Et c'est là où, pour moi, c'est plus intéressant. Et c'est là, en fait, que ça a des implications sur comment on accompagne et comment on communique. Alors, il y a une règle de base. Hein? C'est pas parce qu'une action semble écologique, virgule, je fais du vélo, virgule, que la motivation est écologique. Je fais du vélo tout le temps, je suis absolument obnubilé par le changement climatique. Ma signature, c'est « Il faut parler climat » sur mon mail. Et je fais du vélo parce que j'aime ça. Qu'il y ait changement climatique ou pas, je ne change rien à l'affaire. Alors que je suis un obsédé du climat. Okay? Ce qui veut dire que ça pose question. La pratique, elle est très bien et ça peut aider à diminuer les gaz à effet de serre. Sauf que moi, je ne me promène pas en voiture, si je ne me promène pas en vélo, je me promène en transport en commun. Donc là encore, là, le gain émission gaz à effet de serre n'est pas évident. Donc, j'ai des préférences de mobilité qui n'ont rien à voir avec le climat, mais qui peuvent être comptabilisées quand même. Attention, c'est important ce que je dis, parce que si vous essayez de me convaincre de faire plus de vélo et que vous utilisez l'argument climat, je ne vous écoute pas. Ça ne fonctionne pas comme argument. Ce n'est pas ça qui va m'amener à changer mes pratiques. Okay? Donc ça, c'est super important. Subjectivement, donc, deuxième chose, on va prendre le même argument, mais on va l'inverser. Ce n'est pas parce que je m'engage dans une pratique qui peut être considérée comme non écolo à plusieurs égards, le barbecue du week-end avec de la viande dessus, que je le fais pour faire les gens et leur dire « je m'en moque du changement climatique, allez, je vais y contribuer, je me fais des barbecues, je me promène en voiture toute la semaine ». C'est peut-être une action écologique, mais la motivation derrière n'a rien à voir avec l'écologie. C'est juste parce que j'ai envie de manger un bon barbecue cette semaine. Bon, bah, ceci étant dit, je suis végétarien, c'était juste un exemple. Mais la même chose pour la voiture. On peut être très écolo et se sentir obligé de prendre la voiture parce que, et ça c'est une chose qu'on a découvert, parce qu'on vient d'avoir un deuxième enfant. L'arrivée du deuxième enfant, elle est terrible pour la mobilité voiture en fait, parce que les itinéraires compliqués avec la nounou, la garde, l'école du premier, le club de judo après cours ou je sais pas trop quoi, plus les courses, les mettre au lit à 8h30, etc. Et à un moment donné, on ne se promène pas en bus. C'est pas compliqué. C'est trop compliqué, sauf s'il y a vraiment un très, très bon système de bus, que les voies, il y a des voies réservées pour les bus parce qu'ils ne sont pas pris dans les bouchons. Il y a toutes ces questions-là qui rentrent en compte. Dernier élément, c'est que, et je renvoie aussi un petit peu à l'idée de la volonté. Je dois dire que parfois, il n'est pas facile d'être végétarien, que j'ai envie de me faire une bonne petite tranche d'agneau, parce que j'aime bien l'agneau encore, malgré le fait que. Et ça, c'est une question de volonté. Je le fais ou je ne le fais pas. Ce n'est pas une politique publique qui va me dire si je peux acheter mon agneau ou pas. Il ne faut pas exagérer non plus. L'État n'a pas à s'insérer dans ma vie quotidienne, dans chaque geste. En revanche, si je suis dans un milieu urbain dans lequel il n'y a pas de transport en commun ou qu'il est vraiment pourri et que la desserte elle est mauvaise, là, mon choix, il est contingenté, limité, encadré par la réalité autour de moi, une réalité urbaine. Et donc, il y a une marge de manœuvre plus ou moins grande sur la volonté d'agir, qui dépend de plusieurs facteurs et qui dépend du secteur aussi. Troisième exemple, la rénovation énergétique des bâtiments. Et on peut, là, aborder la question aussi des moyens financiers. La rénovation énergétique d'un bâtiment, d'une maison individuelle, c'est une maison individuelle, je suis proprio, je décide. Mais si je suis dans un habitat collectif ou un bâtiment dans lequel il y a une quinzaine d'appartements dedans, ma décision est en partie dépendante de la décision des 14 autres. Et parmi ces 14 autres, il y en a peut-être 7 ou 8 qui ne vivent pas dans le bâtiment, qui vont habiter ailleurs, parce qu'en fait, ils louent leur appartement. Donc, les locataires n'ont pas beaucoup d'intérêt à dire oui à une rénovation énergétique. Les propriétaires ne l'ont pas non plus. Si je suis un jeune couple, je vis dans 30 mètres carrés, je viens de terminer mes études, je viens d'avoir un boulot, on pense à un enfant, j'ai toutes les conditions pour dire que d'ici 2-3 ans, je vais sortir, partir et aller ailleurs dans quelque chose de plus grand. Donc, je n'ai pas d'intérêt non plus à faire de la rénovation énergétique. Mon argument, là, sous-entendu derrière, il est en partie financier. C'est-à-dire que le coût de l'investissement, avec le retour sur investissement, ne vaut pas la peine, je ne serai pas là dans 3 ans. Mais les études en sociologie sur ces questions-là, il n'y en a pas eu beaucoup, mais il y en a eu quelques-unes, sont super intéressantes. On a découvert que la décision de ne pas faire de travaux de rénovation énergétique par les copros, elle est prise avant même de savoir combien ça va coûter. Donc, le signal prix ne joue pas un rôle là. Ce n'est pas une question de financement. C'est une question qu'en fait, je vais me retrouver avec des gens qui vont bosser à l'extérieur de ma fenêtre et de mon mur et de faire de la poussière, du bruit, etc. Ce sont les incertitudes et, très important, et ça je l'ai vu en observation, des gens avec un très haut niveau de scolarité, grenoblois, très convaincus, écolo, et qui tentent de comprendre si on a droit à quelles aides financières ou pas. Et ils ont abandonné parce que c'était trop compliqué. Là, il y a un problème. Donc, la disponibilité, l'accessibilité, la compréhension qu'on peut avoir de l'information, elle joue un rôle au moins aussi grand que le signal prix. Donc, quand je dis ça à mes amis économistes, ils ne sont pas toujours contents, mais c'est quand même la réalité de ce qu'on trouve en sociologie. Donc, vous voyez, là, je veux juste ouvrir les choses pour qu'on puisse bien comprendre que volonté individuelle, oui, jusqu'à un certain point, mais elle est contingentée souvent les secteurs et différemment selon les secteurs aussi.
Donc bonjour à toutes et à tous, merci à Perrine pour l'organisation et l'invitation. Donc moi je vais un petit peu décaler le regard. Ce que montre une partie des études en sociologie, c'est que la préoccupation environnementale, elle s'exprime dans différents langages, selon différents codes et selon différents principes en fonction des groupes sociaux. Jusqu'à maintenant, on a presque exclusivement parlé de la préoccupation écologique à travers la façon dont on l'applique à nos gestes quotidiens, dont on écologise son style de vie et dont on cherche à incarner au quotidien sa préoccupation à travers son style de vie. Ça, c'est la conception dominante des enjeux environnementaux au sein des institutions, au sein du mouvement écologiste aussi, parce qu'il y a quand même une majorité de courants du mouvement écologiste qui reprennent cette idée. Mais c'est une conception particulière, en fait. C'est une conception parmi d'autres des enjeux écologiques. Elle est critiquée par certains. Certains soulignent que, voilà, ne voir la préoccupation écologique qu'à travers les petits gestes, l'écologisation du quotidien, ça dépolitise ces enjeux, ça n'amène pas à mettre en question les processus économiques, les processus d'organisation sociale. Donc voilà, c'est aussi critiqué. Cette conception, elle se retrouve assez peu au sein des classes populaires, où au sein des classes populaires, on va avoir tendance à concevoir les enjeux écologiques à partir de la réalité concrète des contraintes matérielles de l'existence. Et en fait, ça fait écho à des choses qui ont été montrées depuis longtemps en sociologie, sur la sociologie des classes populaires, notamment le sociologue Richard Hogarth, qui a étudié les classes populaires anglaises dans les années 50. Il disait, dans les classes populaires anglaises, il y a de manière très présente l'idée qu'il faut faire de son mieux, mais sans oublier le monde des réalités, celui du travail et des dettes. Et en fait, c'est un petit peu la même chose par rapport aux enjeux écologiques dans les classes populaires françaises aujourd'hui. C'est-à-dire que les enjeux écologiques sont reconnus, ils sont connus. Moi, dans mes enquêtes, je n'ai jamais rencontré de personnes climato-sceptiques ou qui disaient « l'environnement, je m'en fous » ou quoi que ce soit. Mais ces enjeux-là sont toujours rapportés aux contraintes matérielles de l'existence. C'est-à-dire sont toujours lus sans oublier le monde du travail et des dettes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que, alors que les institutions ou le mouvement écologiste a plutôt tendance à présenter les enjeux écologiques de manière abstraite, à travers des questions comme le changement climatique, la biodiversité, l'effondrement, la crise énergétique, dans les classes populaires, on va plutôt avoir tendance à penser les problèmes environnementaux dans l'espace proche, c'est-à-dire dans le milieu de vie autour de soi, et être très attentif aux déchets qui sont présents autour de soi, à la pollution des cours d'eau, à l'air qui est pollué, aux îlots de chaleur urbains en été, et donc à la façon dont les dégradations environnementales impactent la vie quotidienne. Donc ça, c'est un premier point. Un deuxième point, c'est que les institutions ont tendance à promouvoir cette idée que les individus peuvent changer facilement leur style de vie, et que ça va résoudre, ça, c'est nécessaire en tout cas, pour résoudre la crise climatique, et que ça participe à la résoudre. Et le réalisme des classes populaires, il rentre en contradiction avec ça. Dans mes enquêtes, moi, ce que j'ai vu, c'est que beaucoup de monde assume la difficulté à changer son quotidien. C'est-à-dire que beaucoup de monde dit, moi, j'ai déjà un quotidien très exigeant, fait de beaucoup de contraintes, et donc je ne souhaite pas me rajouter des contraintes supplémentaires. J'ai déjà beaucoup de contraintes dans mon quotidien, je me prive de beaucoup de choses, et donc je ne vais pas me priver de mon steak, qui est le petit plaisir que je me fais dans ma semaine. Ou je ne vais pas me priver du bain le dimanche, parce que toute la semaine, je me nettoie au gant, au seau, ou avec très peu d'eau, donc je m'accorde le bain le dimanche comme une détente après une semaine difficile. Donc ça, c'est un autre point. Deuxième point, l'idée que les individus peuvent sauver la planète, ça rencontre pas beaucoup de conviction chez les membres des classes populaires. C'est-à-dire l'idée qu'en faisant le tri, on va produire un effet global, c'est pas évident, quoi. Et en fait, c'est pas étonnant, puisque cette idée qu'on est personnellement investi d'une mission de sauver la planète, elle requiert quand même une certaine estime de soi, une certaine estime de son importance dans la société. Et quand la société vous renvoie en permanence le fait que vous êtes moins éduqué, que vous avez un salaire moins important, que vous devez vous plier à certaines règles qui ne vous conviennent pas, c'est pas si étonnant en fait qu'on ne se sente pas personnellement investi d'une mission de sauver la planète. Dernier point, l'écologisation du quotidien, c'est souvent perçu comme quelque chose de cher et comme quelque chose qui a des coûts matériels, en fait. Temporels, ça prend du temps, ou bien matériels. En même temps, les classes populaires ont des pratiques très économes. C'est-à-dire que, moi, j'ai surtout enquêté dans des résidences d'habitat social en Ile-de-France. Les personnes disent faire déjà très attention. Et donc, elles ont beaucoup de pratiques économes. Mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ces pratiques économes, ces personnes-là n'ont pas tendance à les valoriser comme des pratiques écologiques. Elles n'ont pas tendance à les présenter comme motivées par l'écologie, mais plutôt à les présenter comme motivées par des contraintes, par du bon sens, par des habitudes, mais pas à chercher à les valoriser écologiquement. Et donc, en fait, y a tout à fait une conscience et une préoccupation pour les questions environnementales dans les classes populaires. Cependant, elle ne s'exprime pas selon les mêmes codes, selon les mêmes principes que les principes dominants. Donc voilà, c'est pour une première intervention, c'est ça que je vais dire.
Merci. Alors, moi, je travaille... Ouais, je vais peut-être prendre la parole. Alors, bonjour à tous et à tous. Donc, moi, je travaille au Centre communal d'action sociale de la ville des Chirolles, qui est mitoyen de Pontclé. Je suis ravie d'avoir été invitée par le Centre de ressources du USP. Alors, nous, on a lancé au CCS, il y a 2 ans, une enquête, qu'on va dire qualitative, c'est-à-dire par entretien avec les gens, dans le cadre de l'analyse des besoins sociaux. L'analyse des besoins sociaux, c'est une obligation réglementaire qui est faite au CCAS, au moins une fois par mandat. L'objectif, c'est d'orienter les politiques sociales de la commune. Donc, il y a toute une partie chiffrée, j'en parlerai pas du tout aujourd'hui. À Échirolles, on a, on va dire, l'habitude de faire une enquête plutôt qualitative en allant poser des questions aux gens. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de sujets qui passent sous les radars des indicateurs chiffrés et on avait vraiment envie de creuser une question. Donc, je vous dis comment on a un peu intitulé notre sujet, qui est assez large. C'était « Questions sociales, questions environnementales, quels impacts mutuels sur les conditions de vie des Échirolois ?» Alors, comme ça, ça fait un peu flipper comme titre. Mais notre point de départ, pour tout vous livrer, c'est qu'en fait, cette enquête, on l'a portée. Donc, moi, je travaille plutôt dans l'observation sociale. Il y a Carole Bégou qui est dans la salle, qui est responsable du service santé. Et on a travaillé aussi avec le service environnement. Et on avait l'impression que nous, on travaillait un peu les uns avec les autres déjà, mais on avait encore des réflexions des collègues qui disaient, alors, de mon côté, plutôt CCAS, non, mais nous, les gens qu'on touche, pour faire court les pauvres, ils s'en fichent un peu, ces questions environnementales. C'est pas leur sujet. Et avec les collègues, on se disait, mais on a l'intuition que c'est pas tout à fait ça qui se joue, mais on n'avait pas tellement de grains à moudre, en fait, par rapport à ce sujet-là, parce qu'en fait, dans le champ des politiques sociales, finalement, c'est pas tellement nos sujets, les questions environnementales. Et on faisait le constat, finalement, dans nos formations initiales, moi, je viens du développement social, cette question de la préoccupation environnementale, elle est nouvelle, finalement, pour beaucoup d'entre nous, à l'échelle de notre société. Et puis, elle n'est pas dans nos ADN de travail, quoi. Ou alors, on pouvait entendre, non, mais ce sujet-là, c'est pas nous, c'est le service environnement. Non, mais vous voyez ce que je veux dire, quelque chose de très un petit peu trop segmenté dans notre vision globale des politiques publiques. Et nous, on s'est dit, on a un truc à creuser par rapport à ça, parce que à côté de ça, nos maisons des habitants à Échirolles, qui sont en fait des centres sociaux, travaillaient dans le champ de l'économie sociale et solidaire avec énormément de projets d'accompagnement de jardins collectifs, de mobilité douce autour du vélo, etc. Il se passait plein de choses, mais c'est comme s'il nous manquait un peu un référentiel entre les questions sociales et les questions environnementales. Donc on s'est dit, en fait, on va aller poser des questions aux gens, tout simplement. Donc on a rencontré pas mal de professionnels des services municipaux, les bailleurs, enfin bref, plein d'associations. Je vais un peu laisser de côté ça aujourd'hui. Et puis du coup, on a rencontré peut-être au total 70 à 80 habitants, que ce soit des gens dans la rue, un peu lambda. Et puis aussi pas mal de gens impliqués dans des petits et des grands, petites et grandes actions sur le territoire, du troc de vêtements, du réemploi, des jardins collectifs, etc. Et c'était hyper intéressant d'aller les voir. Très concrètement, ça infirme complètement l'idée que, c'est ce qu'on se dit depuis ce matin, que les gens des catégories populaires s'en fichent de l'environnement. Vraiment. Par contre, en effet, il y a une vision assez opérationnelle des gens. Nous, dans tous les entretiens qu'on a eus, alors déjà, la première chose, c'est qu'on a vu des gens qui nous lâchaient plus les baskets, en fait, qui ont été capables de nous parler pendant 2 heures de leur projet, de leur vision, etc. Et je trouve ça hyper intéressant de se dire, mais en fait, ce sujet-là, du lien, enfin, de l'environnement et aussi au-delà de ça, de l'environnement lié aux conditions de vie, c'est un sujet majeur pour les gens qui fait parler, des gens qui ont vraiment très envie de témoigner et de donner leur point de vue. Donc, on a je ne sais pas combien de pages d'entretiens retranscrits avec des témoignages qui sont passionnants. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a 3 sujets parmi les Échirolois qu'on a rencontrés. Ah oui, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que Échirolles, donc c'est une commune qui compte 3 quartiers prioritaires politiques de la ville. On a rencontré beaucoup de gens en QPV. donc des gens voilà, des catégories sociales plutôt modestes. Et il y a trois sujets qui sont revenus absolument dans tous les entretiens. Le premier sujet, c'est la question du logement et de la préoccupation du logement. Alors, sachant qu'on a fait les entretiens avant le début de la guerre en Ukraine et, on va dire, l'aggravation des préoccupations énergétiques, mais la question du logement et des contraintes liées à la qualité du logement, c'est-à-dire passoire énergétique, confort, etc., elle est vraiment partagée par tous, sur l'entrée individuelle, confort, etc., mais aussi sur l'entrée, c'est dommage de chauffer les petits oiseaux. Il y a aussi cette conscience globale, en fait. Nous, c'est ce qu'on a pu constater dans les entretiens, c'est qu'il n'y a pas que de la préoccupation individuelle, il y a aussi la conscience de l'enjeu global, de la déperdition de l'énergie, de ce que ça engendre. Voilà, avec à chaque fois cette idée qu'il y a beaucoup de contraintes. Par exemple, sur le logement, ben, c'est ce qui a été dit vraiment précédemment. Quelle marge de manœuvre on a quand on a un logement pas forcément très cher parce qu'on a peu de moyens, donc peut-être de moindre qualité, ou alors qu'on ne peut pas faire isoler, etc. En fait, les marges de manœuvre des gens, elles sont parfois très limitées. Il y a une conscience aiguë de ça. Le deuxième sujet, c'était la question de l'alimentation. C'est pareil, je crois qu'il est revenu dans absolument tous les entretiens. Des gens qui disent, mais on a bien conscience que c'est important de manger bien pour sa santé. La préoccupation santé, elle est majeure sur tous ces sujets. Et aussi pour la planète, circuit court, pas acheter des fraises en hiver. On a eu beaucoup ces remarques-là. Mais comment on fait quand on n'a pas de sous pour manger bio, c'est quand même une contrainte majeure. Donc, il y a l'envie et il y a la vraie vie, quoi. Et puis, le dernier sujet qui a été vraiment, pareil, qui est revenu dans tous les entretiens, c'était l'impact pour les catégories populaires des canicules. En fait, on ne pensait pas que ce serait aussi fréquent. Alors, il y a des entretiens qu'on a eus pendant l'été et en période de canicule. Donc, forcément, c'était un sujet qui a beaucoup occupé, c'est évident. Mais ce n'était pas que ça, parce que nos entretiens se sont étalés sur plusieurs mois. Clairement, quand on a une maison, un jardin, qu'on n'est pas dans le bas de la cuvette grenobloise ou qu'on n'habite pas juste à côté, je sais pas, de l'autoroute, on vit pas du tout la même chose que si on est un peu au frais, si on peut être dehors, si on peut aérer, etc. Et clairement, les habitants des QPV qu'on a rencontrés sont très conscients de subir plus que d'autres la canicule. Et un petit aparté, mais fin juin à Échirolles, on a organisé un temps, on va dire, de restitution de notre enquête là, sur social environnement. On avait invité les habitants qu'on avait interviewés et puis beaucoup d'autres personnes. Et on a montré, en fait, on a projeté la carte des îlots de chaleur urbains à Échirolles. Et je crois que c'était vraiment une découverte pour les gens parce qu'en fait, mais ça on pourra y revenir, il y a encore peu, en tout cas à l'échelle locale, de vision des inégalités environnementales. Et là, clairement, ce que ça montre, c'est qu'il y a des secteurs je pense que c'est la même chose sur l'agglomération, hein, qui sont beaucoup plus exposés que d'autres aux îlots de chaleur urbains, dans lesquels c'est vraiment extrêmement difficile de vivre pendant l'été en période de canicule. Et ce sont les secteurs qui regroupent en fait les quartiers prioritaires de la politique de la ville. En fait, ce sont des quartiers qui, historiquement, sont moins végétalisés. Alors, il y a plein de projets, notamment le NPNRU qui vise à transformer ça, mais il y a des contraintes qui sont vraiment beaucoup plus fortes sur la question de la canicule dans les QPV. Après, peut-être deux derniers points sur ce sujet-là. Ouais. Je voulais juste vous livrer un témoignage d'une collègue qui travaillait à la politique de la ville à Échirolles, qui disait, et je trouvais ça vraiment très pertinent comme témoignage, elle disait « c'est la triple peine pour les habitants des quartiers populaires ». Elle disait, ils subissent à la fois la pauvreté, un cadre de vie qui est moins agréable, et en plus un regard culpabilisateur qui est posé sur les plus modestes, qui ne seraient pas impliqués dans les gestes pour l'environnement. Et je trouvais que ça résumait bien en fait l'ensemble des contraintes qui étaient là. En tout cas, nous, l'enquête, elle montre qu'il y a une vraie préoccupation qui va du très concret, voilà, comme je vous le disais, jusqu'à du très global. Et puis, peut-être juste un dernier point sur cette question-là. Dans les entretiens qu'on a pu avoir dans la rue, dans les parcs pendant l'été, on posait la question à un jeune homme, sur comment contribuer de manière individuelle au dérèglement climatique à notre échelle de citoyen. Et le monsieur, il nous a dit... Attendez, je vais vous lire ce qu'il a dit, parce que c'est pareil, je trouve qu'il y a un enjeu majeur à ça. Il dit « Je pense qu'on peut limiter la pollution, mais moi, je ne suis pas le genre de personne qui fait ça. » Et je pense que là, c'est, alors je ne sais pas comment dire ça, voilà, je ne suis pas sociologue, je le dirais maladroitement, mais la question aussi, c'est comment on peut être finalement un jeune de quartier populaire et dire je m'intéresse à l'environnement ou ça me préoccupe sans passer pour un extraterrestre. Et peut-être le jour où on arrivera à peut-être embarquer tout le monde dans cette dynamique-là de, en fait, voilà, ça me préoccupe, ça me concerne, ça me stresse, ou je m'en fiche, etc. Enfin, cette question de... je pense que ça renvoie vraiment à ce que disait Adrien Malier précédemment, c'est que on n'a pas l'idée qu'on va sauver le monde, mais comment ça peut bouger aussi, ça. Je pense que l'enjeu d'embarquer tout le monde, il est vraiment très important.
Eh bien, justement, bonne transition sur la deuxième question qu'on voulait vous poser à tous les trois encore. On se prête encore à cet exercice. On est dans une situation d'urgence, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, avec un enjeu du changement de modèle qui est quand même un peu à partager par tous. Sauf que parfois, ça coince. Et du coup, on voulait vous questionner, d'après vous, quels sont les freins, les contraintes auxquels sont confrontés les citoyens qui les empêchent aujourd'hui ou qui compliquent la mise en œuvre des transitions chez eux. C'est-à-dire, c'est quoi, qu'est-ce qui fait frein ou qu'est-ce qui fait contrainte? Et comment on peut prendre en compte collectivement là, les questions d'inégalité face à ça? On voit bien qu'il y a des différences de sensibilité, mais comment on peut prendre en charge ça? Voilà. Oui, allez.
Donc, merci. Donc, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, comme le souci environnemental s'exprime dans des langages et selon des codes différents, les institutions et les mouvements écologistes, qui ne retrouvent pas leurs propres préoccupations chez les classes populaires, se disent « Ah, bah, effectivement, les classes populaires ne sont pas préoccupées par l'environnement, parce qu'elles ne retrouvent pas leurs propres codes chez les classes populaires. » Et donc, les institutions s'adressent aux classes populaires principalement à travers une visée éducative. Et en fait, elles ne font ça que par rapport aux classes populaires. C'est-à-dire que l'accompagnement à l'adoption d'éco-gestes, qui est quand même devenu quelque chose de fréquent dans les résidences HLM, ça n'a lieu dans aucun quartier aisé ou dans aucun quartier de classe moyenne, effectivement. On a des campagnes de communication dans les médias pour tout le monde, on a des incitations fiscales, mais on n'a personne qui vient toquer à la porte de votre logement pour faire un bilan de vos pratiques et vous dire, bon, ce serait bien de réduire la douche à 5 minutes. Et donc, en fait, les institutions ne s'adressent pas à tous les publics de la même façon et s'adressent aux classes populaires principalement à travers une visée éducative pour les sensibiliser. Le paradoxe, et c'est ce que disait quelqu'un tout à l'heure, c'est que pourtant, les classes populaires sont aussi le groupe social dont le style de vie est le moins émetteur de carbone. Ça, les économistes l'ont montré de manière très claire à travers des études statistiques très robustes. L'empreinte carbone croît avec le revenu. Et donc, on se retrouve à vouloir éduquer et moraliser le plus le groupe social qui est le moins émetteur de carbone. Donc là, il y a un paradoxe quand même. D'accord. Et donc, je pense que ça, c'est un obstacle à emmener les gens avec soi. C'est-à-dire qu'on cherche, et c'est vrai aussi en fait parmi le mouvement écologiste, moi j'ai aussi travaillé sur des groupes Alternatiba qui interviennent dans des banlieues populaires, dans la banlieue parisienne, ils cherchent aussi à éduquer les gens. Et donc les institutions, comme une partie du mouvement écologiste, se met dans une position d'avoir la bonne solution et de vouloir la transmettre aux autres, plutôt que de vouloir les convertir, plutôt que d'écouter, d'essayer de comprendre. Et donc, sans doute qu'une piste pour emmener les gens avec soi et pour créer des convergences, c'est de quitter cette posture de conversion et éducative et plutôt d'essayer de repartir de la préoccupation environnementale des classes populaires et de faire des ponts avec ça. Et donc, on pourra en discuter, mais comme le temps tourne, je laisse la parole à mes collègues.
Je voyais pas mal de liens avec ce qu'on a dit. Oui, rapidement. Parce qu'en fait, nous, dans notre enquête, on a posé la question aux gens qu'on a rencontrés. Quelles sont les contraintes que vous identifiez? Quelles sont les opportunités ou leviers que vous identifiez qui sont liés, on va dire, à l'environnement au sens large? Très clairement, la question de la sobriété, elle est majeure. Parce que quand on n'a pas beaucoup de sous, en fait, on a l'habitude de vivre avec pas grand-chose. Il y a une dame qui nous disait... elle était un peu agacée par notre question. Alors, je ne retrouve plus le témoignage, mais elle disait « Non, mais ça nous saoule, le développement durable. Moi, ma mère, elle n'avait pas beaucoup de sous. Elle nous filait les vêtements d'un enfant à l'autre. Elle était, en fait, écolo avant l'heure. C'était un peu agacé, cette posture-là. » Et c'est vrai que je pense que ça fait écho à ce qui était dit juste précédemment. En effet, il y a une posture éducative, mais quand on n'a pas beaucoup de sous, on est sobre, en fait. Le bilan carbone ou d'autres choses, il est faible. Et par contre, nous, ce que les gens ont pu nous dire et qui peut être un levier, c'est qu'il y a des pratiques qui, auparavant, étaient réservées à des gens pauvres. Par exemple, se passer les vêtements, acheter d'occasion, etc. Ces pratiques-là, sur lesquelles il y a un regard qui est un peu différent. C'est-à-dire que maintenant, utiliser Vinted pour acheter des vêtements, c'est plus quelque chose qui est réservé aux gens qui n'ont pas de sous. Ça s'est répandu dans la classe moyenne, etc. Donc peut-être qu'il y a des leviers, parce que contraintes, leviers, est-ce qu'il y a des leviers à ce niveau-là? Est-ce que c'est pas quelque chose qui... Ces pratiques vertueuses, elles sont beaucoup plus répandues. Donc maintenant, est-ce que quand on n'a pas de moyens, on n'a pas envie finalement d'aller acheter des vêtements dans un magasin, j'allais dire comme tout le monde en fait. C'est vraiment la sobriété... subit la question. Et puis le dernier point, c'est que nous on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de d'ambivalence des gens, parce que malgré tout la norme, elle est quand même encore à l'hyperconsommation. Donc qu'est-ce que ça signifie d'être contraint tout le temps quand la norme, elle est de consommer, y compris de consommer bio, responsable, etc. C'est un peu ça, la nouvelle norme. Et ça, les gens en parlent. Et en fait, les injonctions, elles sont tellement multiples que c'est compliqué pour les gens. Il faut aussi accepter une part d'ambivalence. Peut-être, je fais gaffe la plupart du temps, mais je prends un bain parce que ça fait du bien. Et peut-être que un levier majeur, c'est, et nous c'est ce qu'on a vu, c'est la question du plaisir de faire pour soi et avec les autres. Nous, on a rencontré beaucoup de gens qui étaient sur des petits projets du troc de vêtements, de la gestion d'étagères, ici c'est gratuit, des choses qui peuvent paraître minimes, mais alors la fierté et le plaisir des gens à faire ça pour la planète, parce qu'on fait un tout petit bout, mais il y a quand même cette conscience de faire global, et de le faire ensemble avec d'autres, je pense que c'est un levier énorme, le plaisir de faire.
Oui. Stéphane, peut-être en réaction par rapport à ce que vous avez entendu là, et peut-être aussi à partir de vos travaux sur les freins, comment on peut expliquer le fait qu'en fait on ne passe pas, quoi, tout le monde ne passe pas le cap des transitions, quoi. Vous, je sais que vous avez étudié ça, donc un peu quand vous êtes vraiment là-dedans, donc peut-être revenir là-dessus particulièrement.
Les raisons pour lesquelles on ne change pas sont multiples. On va commencer avec le cerveau. En fait, le cerveau est un organe hyper paresseux. Il n'aime pas être surstimulé, il l'est tout le temps. Donc, déjà, ça bug. Et donc, une des stratégies du cerveau pour économiser d'énergie cognitive et cérébrale, c'est de créer des habitudes. Je fais toujours les mêmes choses de manière automatique, comme ça, le cerveau peut se reposer. Et ça va très loin, ça, les habitudes. Si vous avez l'habitude de vous promener en vélo, en trottinette, en voiture, entre deux points tous les matins, boulot, maison, etc., en fait, je vous défie de vous rappeler ce que vous avez vu pendant votre trajet. Vous en serez incapable. Il faudra vous mettre sous hypnose pour être capable d'avoir quelque chose d'un peu clair. S'il se passe un truc inhabituel, là, vous allez vous rappeler de cet événement-là. Mais sinon, vous pensez à autre chose. Ça a des implications profondes parce que ça veut dire, ce que je commence à comprendre, c'est qu'au-delà des efforts physiques, de mettre un pull quand il fait froid, des choses comme ça, c'est l'inconfort cognitif qui est un obstacle majeur. Pourquoi? Parce que les habitudes qu'on a acquises au quotidien et les plaisirs qu'on a au quotidien de se faire le barbecue, de se faire le bain, sont inscrites dans une société où l'énergie est fossile, abondante, peu chère. Et là, on se dit, wow, ça va nous tuer, elle augmente en prix, et puis il ne faudra pas qu'elle soit trop abondante non plus, parce que sinon, on risque d'avoir du plus 6 degrés plutôt que du plus 3. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Et donc, il faut sortir de nos habitudes ancrées dans cette civilisation et dire, ben là, on va vers autre chose. Et je peux vous dire que pour une partie de la population, essayer de changer est un effort cognitif tellement grand que ça suscite des angoisses. Ah ben là, si on est angoissé à l'idée de devoir s'observer soi-même au quotidien, de dire, là, j'ai pris un peu trop de bain, est-ce que je mets moins d'eau dedans, est-ce que je le prends moins... Mais ça devient infini. J'ai des gens qui se posent les questions suivantes. Moi aussi, mais pas que. Je veux faire bouillir de l'eau. J'ai gaz et j'ai ma bouilloire électrique. Est-ce que je fais bouillir mon eau un peu avec bouilloire électrique avant de la mettre sur le gaz? Alors, vu que le gaz est quand même plus émetteur de gaz à effet de serre, je vais plutôt passer par l'électricité. Si j'étais en Pologne, l'électricité proviendrait du charbon. Donc là, ça pose problème aussi. Vous voyez à quel point ça peut... Mais c'est hyper lourd. C'est super lourd pour le cerveau et pour les émotions. C'est trop. Alors, quand on rajoute la charge mentale de la précarité en plus, moi, je sais que quand j'ai une charge mentale trop importante, et on l'a déjà vu aussi dans des enquêtes, pas lié à la précarité, mais à la réalité que ben là, j'ai un nouvel enfant et que j'ai beaucoup trop de boulot, j'ai envie de me faire mon bain. Hein? OK? Donc, il y a ça qui... Ça, c'est super important. Il faut comprendre ça. Ce qui m'amène donc à répondre un peu à ce que tu disais tout à l'heure. C'est vrai que les classes moyennes, on leur dit, on va tous mourir en 2050, changer de mode de vie. Puis après ça, on se tire et on ne fait rien. Sauf que le cerveau, il se dit, et alors? So what? On va mourir dans 50 ans, dans 30 ans, je ne sais plus où je vais être, et puis il y a des incertitudes. Ou alors on se dit, oui, mais c'est vrai, ça, on va avoir vraiment une catastrophe, mais là, aujourd'hui, je fais quoi? Et donc, en fait, c'est toute la question en fait, de l'angoisse, des émotions, de la charge mentale qui va bien au-delà de l'information scientifique. Je vous donne un autre exemple. On sait que le coût de l'énergie va augmenter cette année. Mais on sait qu'on va payer plus cher notre chauffage. Mais notre facture va arriver quand? Elle va arriver après la période de chauffe. Autrement dit, on va continuer à se chauffer à 19, 20, 21, 22, 21, 22 pour la moyenne en France, parce que, en fait, j'ai froid maintenant, donc je me chauffe maintenant. Okay. Il y a tous ces éléments-là qui rentrent en compte. Ensuite, les freins, il y en a d'autres, mais j'en ai mentionné tout à l'heure, qui sont plus de l'ordre urbain. Si je suis en campagne, je n'attends pas le bus, il n'y en a pas. Ce n'est pas compliqué, donc j'ai ma voiture. Donc là, même si je veux changer, ceci étant dit, il y avait des gens qui voulaient changer, faire du tri, etc. Avant qu'il y avait un système de tri, on ne pouvait pas. Très, très clair. OK. On installe un système de tri avec le ramassage des poubelles, blablabla. Et pour autant, ça ne veut pas dire que le tri ni la poubelle sont faits correctement. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a une opportunité de faire quelque chose qu'on la saisit. Et donc, j'arrive à cette idée, moi, depuis un bout de temps, c'est de dire, bon, au-delà de sensibiliser les gens aux questions climat qui n'intéressent pas tout le monde, ou en tout cas certainement pas assez pour changer de pratique et de mode de vie, on fait comment? Ben moi, je suis dans l'accompagnement, classe moyenne. Il faut les accompagner aussi, leur dire un peu comment faire, avec deux différences. Classe moyenne veut dire classe moyenne sup, souvent plus scolarisée, et donc avec plus de capacité pour aller chercher les informations dont ils ont besoin pour changer s'ils le veulent. Et ils ont plus de capacité financière pour le faire aussi. Et donc, ils ont une capacité d'opportunité pour le faire. Ceci étant dit, les quelques trucs que j'ai fait avec des étudiants aussi sur la question du végétarisme, il y a des aspects culturels tellement profonds qu'à un moment donné, ça bloque. Et si vous voulez recevoir des gens correctement chez vous ce week-end, essayez d'imaginer un repas sans viande, juste pour voir. On se sent presque coupable. C'est pas du cognitif, ça. Okay? C'est du culturel, c'est des valeurs ancrées, c'est une forme de bien recevoir, être bien ensemble, veut dire qu'on se fait un petit morceau de viande, parce que sinon, on ne sait plus quoi mettre dans l'assiette. Donc, pour convaincre les gens de devenir végétariens, si l'argument climat ne fonctionne pas, quel argument est-ce que l'on utilise? L'éthique animale fonctionne mieux que le climat. La santé, quand votre médecin vous dit « Bon, arrête de faire tes conneries avec la viande parce que là, tu vas te payer une crise cardiaque d'ici 2 ans », là, ça fout les jetons un peu, puis on fait plus attention. Okay? Mais, ceci étant dit, comment cuisiner végétarien pour que ça soit bon? Le meilleur argument pour aimer, pour apprendre à cuisiner végétarien, c'est de manger de la bonne bouffe végétarienne. Les autres arguments viennent après. Donc, acheter un bon livre de cuisine végétarienne. Inviter des gens avec de la bonne bouffe végétarienne. Vous leur dites pas que c'est végétarien avant. On a testé. Vous leur faites manger. Ils disent c'est bon. Et ensuite, vous leur dites que c'est végétarien. Et la réception est meilleure qu'à l'inverse. Voilà.
Merci. Il nous reste 5-7 minutes pour clôturer ce temps-là. On avait une dernière question à vous poser. La primeur pour toi, donc 5-7 minutes réparties entre vous trois. Stéphane, vous parliez de changement. Effectivement, la troisième question, c'était ça. C'est-à-dire, on voit qu'il y a une nécessité d'accompagner le changement, collectivement les changements. Et du coup, à partir de vos différents travaux, encore une fois, quel regard avez-vous sur la façon dont aujourd'hui les politiques publiques abordent ce sujet-là aujourd'hui? Qu'est-ce qui pourrait faire levier ou condition, on va dire, pour que effectivement ces changements ils s'opèrent dans la réalité et qu'ils fassent sens pour la majorité d'entre nous? Voilà, donc l'aspect politique publique et puis l'aspect levier pour vous, en tout cas ce que vous voyez à partir toujours de vos travaux respectifs et de votre regard échirolois, quartier populaire et national.
Bon, alors si je commence avec le regard donc des entretiens qu'on a pu avoir sur les quartiers populaires d'Échirol, deux points pour pas répéter ce qu'on a déjà dit. À l'issue de l'enquête, nous on a fait en fait des préconisations et il y a deux sujets qui sont revenus que je veux souligner. Le premier, c'est que c'est important de soutenir la participation, de valoriser, de faire connaître tout ce qui peut se passer comme petite et grande initiative. On s'est rendu compte que les gens, ils ont envie de parler de ce qu'ils font, ils sont hyper fiers, donc ça peut être un levier de changement. On s'est rendu compte que l'effet boule de neige, c'est-à-dire un peu l'exemplarité de dire « Ah ouais, mon voisin, en fait, ouais, il trie ses déchets, ou il participe à tel projet, il récupère les invendus du marché, allez, moi j'y vais aussi. » Il y a une grosse attente des habitants de la part de nous, collectivités, à être exemplaires aussi sur la mobilité, sur du bâtiment, etc. Donc, comment on peut être dans une dynamique vraiment d'éducation populaire au sens valorisation, conscientisation, avec les habitants par rapport à ça? Moi, je pense qu'il y a un vrai enjeu à ce que, par exemple, les centres sociaux s'emparent des questions environnementales, bossent là-dessus avec les habitants, et ça monte au niveau local, au niveau national. La fédération s'est vraiment emparée de ces enjeux-là. Et puis, voilà, deuxième point qui paraît important, et ça, les gens en parlaient beaucoup. Il faut qu'il y ait une justice une justice sociale et environnementale croisée. Les gens ont pu nous dire non, mais nous, on nous demande beaucoup d'efforts en France, mais finalement, est-ce que l'Inde, est-ce que la Chine, qui sont des gros pollueurs, on demande aux gens les mêmes choses? Ça semble injuste pour les gens. Et au niveau local, ça ressort aussi. Alors, sur la question des mobilités, nous, on nous incite à abandonner la voiture, etc. Mais il y a des jets privés qui passent au-dessus de nos têtes tous les jours. On a vu des images de yachts qui traversent la Méditerranée, qui ont une émission. Alors, c'est pas comme ça que les gens le disent, hein, parce qu'ils parlent pas d'émissions de CO2, mais ils polluent. Ils nous en fument, etc. Donc, voilà, ça génère une forme de colère parce que derrière, ce qu'il y a, c'est l'injustice. Donc, pour moi, un levier majeur de nos politiques publiques là-dessus, que ce soit au niveau local, ça nous concerne aussi, comme au niveau national et international, c'est la justice sociale des mesures environnementales. Les gens sont en attente de ça pour que ce soit légitime de changer, pour faire, entre guillemets, ces efforts-là.
Merci. Trois points rapides. Un, ne pensez pas que le climat mène à des changements de comportement. Donc, vos campagnes de publicité, de sensibilisation, etc., basées sur le climat, il faut les faire parce que nous devons comprendre ce que ça veut dire, mais il faut passer par d'autres moyens. Par les fun, par les plaisirs, par les défis, par les autres choses que ça, c'est plus efficace, en fait. Ça, c'est un premier point. Deuxième, arrêtez d'être catastrophiste. Les gens n'ont ras-le-bol. Et ça, je le vois, je fais des dizaines de conférences publiques. Quand je fais une conférence publique, habituellement, je prends 5 minutes pour envoyer des coups de batte de baseball pour dire ça va mal, et ensuite dire oui, mais en fait, il y a des choses qui se passent, qui sont positives. Donc là, je te rejoins complètement là-dessus. Super important de passer en mode construction constructive d'alternative. et toujours par le biais du fun et non pas de « on va tous mourir ». Ça ne marche pas. Et en fait, ça crée des angoisses et des paralysies. Troisième élan, qui est un peu plus important que j'ai vu moi, dans les politiques publiques, on n'est pas toujours bon sur tous les secteurs, mais sur les secteurs de mobilité, on est plutôt bon. On comprend maintenant comment faire un peu de pression ici, un peu d'obligation là, mais l'obligation, elle est associée à une plus grande capacitation à faire. On aide les gens à faire si on les oblige à ne pas faire. Mais il faut que ça corresponde avec une sensibilisation correcte, avec du travail sur l'urbanisme et des choses comme ça. Donc, sur certains secteurs, on est plutôt bon. Il faut juste aller plus vite et le faire plus. Et sur d'autres secteurs, on sait mal faire encore, en fait, il faut bien le dire. Mais cette question de l'équité revient tout le temps. C'est revenu dans les premières discussions sur la zone à faible émission qui s'appelait ZAPA à l'époque en 2012. C'était une préoccupation incluant des classes moyennes de dire si on fait trop de pression sur l'automobile, ce sont les précaires qui vont payer. Et donc, même les classes moyennes étaient contre ces mesures-là à cause des impacts sur les classes précaires. Donc ça, c'est super intéressant et il faut mettre ça en avant. Troisième point, l'exemplarité pour les politiques publiques. Je veux dire, là, dans toutes les enquêtes, c'est « oui, oui, je veux bien faire des efforts, mais toi en premier. » Et montre-le aussi que tu fais des efforts. Si tu n'en fais pas, je ne sais pas pourquoi j'en ferai. Ce qui est un peu normal. Vous dites aux autres quoi faire, faites-le. Dites pas aux autres de devenir végétarien en vous faisant une tranche de steak.
Donc, je rejoins tout à fait Stéphane et Hélène. Premier point pour moi, ce serait de davantage valoriser le faible niveau d'émission des styles de vie populaires. C'est-à-dire qu'au lieu d'être dans une posture éducative et de vouloir transformer les gens, peut-être essayer de les féliciter, de les valoriser du fait que, ben, parce qu'ils prennent moins la voiture, moins l'avion, qu'ils consomment moins de choses, en fait, ils font partie des Français et Françaises qui participent le moins à la destruction du climat. Donc, premier point. Deuxième point, moi aussi, dans mes enquêtes auprès des classes populaires, j'ai beaucoup retrouvé, un peu en miroir, en fait, de la déresponsabilisation individuelle, une responsabilisation des grands, des gros pollueurs. Et donc, des gens qui disent « mais on n'est pas Trump, nous, c'est pas la douche du petit monsieur qui détruit la planète ». Et donc, accompagner peut-être cette politisation, en fait, effectivement, en cherchant à politiser ce point de vue, effectivement, en assumant le fait qu'il y a certains qui polluent plus que d'autres et que il y a besoin de construire des discours collectifs par rapport à ça pour adresser cette question. Et dernier point sur la justice environnementale locale, je vous rejoins tout à fait. Donc, cette propension à voir les dégradations environnementales dans la façon dont elles touchent le milieu de vie proche, elle s'applique par exemple aux déchets. Et donc, dans les quartiers populaires, beaucoup de gens se plaignent de la présence de déchets. À la fois les institutions et les locataires des résidences HLM ont tendance à blâmer les voisins. C'est-à-dire, c'est le jet d'ordure par les fenêtres, c'est la mauvaise gestion des encombrants. Et ça, on le retrouve chez les locataires eux-mêmes. C'est-à-dire, les locataires eux-mêmes ont beaucoup de discours accusateurs sur leurs voisins et voisines. Pourtant, moi, mes enquêtes montrent que le problème des déchets dans les résidences HLM, il est toujours plus complexe. C'est jamais qu'une question d'incivilité. Monsieur le maire, tout à l'heure, parlait des conventions entre les bailleurs et la mairie qui se rejettent la faute sur le nettoyage de certaines allées des résidences, certains espaces. On sait que dans les résidences HLM, il y a aussi des entreprises qui viennent jeter des pots de peinture, des gravats, parce que ça a l'air plus acceptable de s'en débarrasser là-bas. Et donc, on sait qu'à chaque fois, en fait, c'est plus complexe, qu'il y a d'autres acteurs qui participent à ce problème. Et peut-être qu'essayer de demander une forme de justice en augmentant le nettoyage, en agissant sur les dépôts sauvages d'autres acteurs, serait une façon, en fait, d'emmener les gens avec soi, en les amenant non pas à se blâmer entre eux, mais à construire un discours plus politique par rapport à ça.